Merci David. Bonjour à tous. C'est toujours une joie d'être parmi vous. Car ce matin, vous êtes vraiment ma famille. C'est vraiment un privilège que j'ai. Merci Philippe pour l'invitation. Pour la petite anecdote, j'ai failli ne pas prêcher sur ce texte. J'ai ouvert ma boîte mail et j'ai vu les annonces et je me suis dit « Ah oui, c'est ce texte que je dois prêcher ». T'inquiète pas, je veux bien prêcher sur Marc chapitre 2. J'allais faire 1 Samuel, dans notre église on est sur 1 Samuel, rien à voir. Mais on va bien prêcher sur Marc 2. Donc si je comprends bien, on est sur une série. Jésus est venu pour. Et on va voir aujourd'hui avec le texte qu'on vient de lire, merci David, que Jésus est venu pour guérir. C'est le titre du message de ce matin, Jésus est venu pour guérir. En octobre 2009, l'humanité perd l'un de ses plus grands inventeurs modernes, qui est mort le 5 octobre 2009. L'un des plus grands inventeurs modernes. J'ai cru entendre Steve Jobs, exactement. Steve Jobs, peut-être ceux qui ont des iPads, des Macs, des iPhones, etc., etc. Donc si tu te souviens, le monde est en berne. L'information fait la une des journaux. Je me souviens des images de personnes qui croquaient une pomme et qui la mettaient devant un magasin pour rendre hommage à Steve Jobs. Mince, on a perdu un génie. On a perdu un visionnaire. Est-ce que les choses auraient pu telles être autrement pour lui? Est-ce qu'il aurait pu ne pas mourir de son cancer? Bien, en 2003-2004, on repère chez Steve Jobs un cancer du pancréas. Et normalement, ce cancer est particulièrement mortel. Mais pour lui, il a plutôt une forme curable, quelque chose qui peut se guérir. Les médecins lui proposent donc qu'il se fasse opérer, mais il refuse. Et d'après son biographe, voici ce qu'il dit. Je crois, donc c'est le biographe qui parle, sa relation avec Steve Jobs par rapport à sa propre maladie, voici ce qu'il aurait dit. Je crois qu'il pensait en gros que si on ignore quelque chose, si on veut que quelque chose n'existe pas, on peut avoir une pensée magique. Et hop, ça n'existe plus. Finalement, il se fait opérer 9 mois plus tard et on connaît la suite. Les cellules cancéreuses se sont répandues dans tout son corps et il décède donc le 5 octobre 2009. Quelle ironie, n'est-ce pas? Quelle ironie. L'inventeur génial a refusé la technologie pour se faire soigner. Et il a cru en la pensée magique. Mais qu'en est-il de moi? Est-ce que moi aussi, je ne refuse pas trop souvent de me faire soigner d'un mal encore plus profond et plus pervers que le cancer? J'ai nommé le péché. Est-ce que moi aussi, je refuse d'utiliser le remède que la Bible et que Jésus-Christ me proposent par rapport au péché? On a tous nos angles morts, n'est-ce pas? C'est ces zones dans notre vie qu'on n'aime pas regarder, qu'on n'aime pas voir en face. Pourtant, la solution existe. Jésus est venu te guérir du péché. Jésus est venu te guérir du péché. Il est le médecin bienveillant qui me soigne du péché. Encore faut-il que je le reconnaisse avant qu'il soit trop tard. Et je vais simplement relire ce verset qu'on a lu, mais dans son contexte, donc les versets 13 à 17, vous pouvez suivre derrière, vous pouvez ouvrir vos Bibles, simplement relire pour qu'on comprenne dans quel cadre Jésus a prononcé ces paroles. Donc Marc 2, versets 13 à 17. Jésus sortit de nouveau du côté du lac. Toute la foule venait à lui et il enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux à le suivre. Le voyant manger avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs, les spécialistes de la loi et les pharisiens dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur dit, « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Quelques éléments de contexte. Je sais que Philippe aime bien les éléments de contexte, moi aussi. Quelques éléments de contexte. Donc on est dans Marc, l'évangile de Marc, qui raconte justement Jésus-Christ, le Messie. Et juste au début du chapitre, on constate la guérison d'un paralytique. Et on remarque que cette guérison a pour but de pointer vers Jésus-Christ. Et juste après, au verset 13 à 14, on remarque l'appel de Lévi, l'appel de Matthieu. Lévi, c'est Matthieu, c'est la même personne. Et Lévi, tellement content d'être appelé par Jésus-Christ, il invite ses amis à venir manger avec lui. Et on remarque dans ces deux récits, la guérison, l'appel de Lévi et la suite, qui est le repas avec les amis de Lévi, qu'il y a des tensions avec les pharisiens. Des tensions qui vont grandir. Des tensions qu'on va remarquer aussi dans la suite, avec la question liée au sabbat, dans la suite du chapitre 2. Donc tous ces textes-là, au début de l'évangile de Marc, tournent autour de cette question. Qui est Jésus et pourquoi est-il venu ? Avec le paralytique, au verset 7, on voit « Qui est-il pour pardonner des péchés ?» Qui est-il au verset 13 pour dire à Matthieu, à Lévi, « Suis-moi !» Quelle est sa mission ? Et donc dans cette série, sur l'avant, Jésus est venu pour, on va répondre à ces questions en voyant que Jésus est venu pour t'appeler et qu'il est venu pour te guérir. Donc Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Donc au verset 14, on voit qu'il appelle Lévi au bureau des taxes. Il invite chez lui avec les collecteurs d'impôts et les pêcheurs. Au verset 15, on voit Marc qui précise que c'est des pêcheurs. Pourquoi est-ce qu'ils sont appelés pêcheurs ? En fait, c'était une catégorie utilisée par les pharisiens pour désigner des personnes non fréquentables, des parias. Les pharisiens, donc le groupe religieux de l'époque, utilisaient ce mot pour parler des gens qui ne respectaient pas leurs règles par rapport à la loi. Et c'était le cas, en fait, des collecteurs d'impôts. Donc, ils divisaient la société juive en deux catégories, les justes et les pécheurs. Les collecteurs d'impôts, c'est les pécheurs. Et c'est pour cette raison qu'ils sont choqués par Jésus-Christ. Verset 16. Pourquoi mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas comme nous ? Pourquoi est-ce qu'il ne reconnaît pas les différentes catégories qu'on fait par rapport aux gens qui respectent la loi et ceux qui ne la respectent pas ? Mais Jésus s'en moque. Il va vers eux. Il va vers les pécheurs. Il va vers les parias. Il va vers les rejetés. Et c'est une personne de leur milieu qui va appeler Matthieu et Lévi. Et c'est avec eux que Jésus va manger, passer du temps. Pourquoi ? Pourquoi Jésus agit de cette manière ? Parce que verset 17, « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » L'appel de Jésus est pour ceux qui sont conscients de leur état spirituel. Et de façon ironique, Jésus va préciser que sa venue est pour ceux qui se reconnaissent malades, justement ceux que vous considérez comme des parias, eh bien je suis venu pour eux. Et non pour les justes, les pharisiens, ou les gens qui se croient justes. Le royaume de Dieu n'est pas pour les orgueilleux, il est pour les humbles qui reconnaissent leur besoin constant de la grâce de Dieu continuellement. Et c'est ce que Jésus exprime par ce verset, ce verset phare en fait de cette section de notre texte, du texte du jour. Et cet appel de Jésus-Christ envers des pécheurs, envers les parias, envers les humbles, cet appel retentit encore aujourd'hui. C'est un appel pour toi et pour moi. Alors est-ce que je vais répondre à cet appel ? Ou est-ce que je vais me comporter comme Steve Jobs ? Je vais ignorer les avertissements. Steve Jobs a reconnu beaucoup trop tardivement sa réelle condition physique. Encore une fois, son biographe dit, il voulait en parler, dire comment il le regrettait. Je crois qu'il avait le sentiment qu'il aurait dû avoir une opération plus tôt. Mais qu'en est-il de moi ? Est-ce que je reconnais mon péché, ma maladie spirituelle ? Ou est-ce que je suis injuste ? Un bien portant. Non, j'ai pas besoin d'aide. Je vais bien. Je vais bien aujourd'hui. Reconnaître et répondre positivement à l'appel de Jésus-Christ implique de reconnaître son péché quotidiennement. Répondre positivement à l'appel de Jésus implique de reconnaître son péché quotidiennement et sérieusement. Je dois prendre la place du pécheur devant Dieu pour avoir la grâce qui coule par l'évangile, pour être au bénéfice de cette grâce de Jésus-Christ. Et cette grâce, Jésus la montre par sa guérison. Il m'appelle pour me guérir. Jésus te guérit. Deuxième point, pas troisième. À l'interpellation de ses opposants, Jésus répond en s'identifiant comme le médecin venu guérir ceux qui sont malades. Et le verbe venir du verset 17, bien sûr, il est venu guérir ceux qui sont malades, et bien ça fait écho à un verset précédent dans l'évangile de Marc. Marc 1, verset 38, il leur répondit, donc il parle aux disciples qui sont venus le chercher alors qu'il est en train de prier, et il leur répond ceci. « Allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti, littéralement, c'est pour cela que je suis venu, c'est exactement le même verbe. » Et donc ce verbe « venir » pointe directement vers les raisons de la venue de Jésus-Christ. Jésus est venu pour. Alors pourquoi ? Pour faire des guérisons ? Pour faire des miracles ? Comme le décrit Marc dans le début de son évangile, énormément de miracles, extraordinaires. Est-ce qu'il est simplement venu pour cela ? Lorsque Jésus ne répond pas à certaines de mes prières, est-ce qu'il est venu pour cela ? Est-ce que c'est la raison principale de sa venue ? Alors oui, Dieu prend soin de nous. Mais il prend soin de nous de quelle manière particulièrement ? Il prend soin de nous en rapport avec le péché. La priorité de Jésus dans sa mission, c'est le pardon des péchés. Et à travers le pardon des péchés, la guérison, non pas physique, mais spirituelle. La véritable guérison. Et c'est ici, en fait, que dans l'évangile de Marc, la mission de Jésus est vraiment explicite. Il est venu pour le pardon des péchés. Et cette mission doit rester dans mon esprit lorsque je traverse l'ensemble de l'évangile de Marc. Il est tout à fait normal qu'on attende d'un médecin qui soit au contact des malades, n'est-ce pas ? C'est là où il est efficace, c'est là où on l'attend. C'est là où il œuvre. C'est là où il met la main à la pâte. Et Jésus, c'est donc ce médecin qui est venu, Dieu incarné, Dieu fait homme, être au milieu des malades, nous les pécheurs. Il est venu soigner cette maladie, le péché. Maladie qui n'est pas physique, mais spirituelle. La rébellion contre Dieu, la non-conformité à la volonté de Dieu, l'accomplissement d'actes mauvais, les mauvaises pensées, un comportement contraire à la piété, la volonté de cacher ses fautes, et j'en passe, et j'en passe. Mais de quelle manière Jésus soigne de ce péché qui me colle à la peau ? Ben, il le fait par sa mort et par sa résurrection. Jésus prend sur lui, et c'est l'évangile qu'on aime se répéter. Jésus prend sur lui mes fautes, mon péché. Il prend sur lui la colère de Dieu et il me donne sa justice. Et par son esprit, Jésus applique cette guérison extraordinaire, miraculeuse. Il l'applique dans ma vie personnelle. Cette guérison, je la reçois par la foi. Et par la repentance, cette guérison, tu la reçois, tu peux la recevoir, tu la reçois quotidiennement par la foi et la repentance. Ça veut dire que je place au jour le jour ma confiance en Jésus-Christ et j'abandonne tout acte, pensée contraire aux enseignements de Jésus. Alors concrètement, comment vivre dans la guérison du Seigneur ? Comment être au bénéfice de cette mission, Jésus est venu pour me guérir. Comment le vivre ? Eh bien, j'aimerais te partager 7 points essentiels du caractère de la repentance. Et j'espère par ces 7 points qu'on soit encouragé à vivre dans la guérison du Seigneur. Premier point. Je regarde mon péché en face. Je vois et je reconnais mon péché pour ce qu'il est vraiment. Fini les techniques de minimisation. Fini le fait de dire « Ah, mais en fait, mon péché, c'était qu'une gaffe. C'était un faux pas. C'était une erreur. » Non. Mon péché est un acte criminel, indigne, contre Dieu, qui porte atteinte à sa majesté, à sa souveraineté, à son honneur, à son excellence. C'est ça le péché. Et si je veux vivre dans la guérison de Jésus-Christ, alors je ne minimise pas le péché pour obtenir le pardon. Premier point, je regarde mon péché en face. Deuxième point, j'assume les dégâts de mon péché. Je vois et je reconnais ce que mon péché a fait à Dieu et à mon prochain. C'est fini le chagrin égoïste, le fait de s'abattre sur son propre sort et de penser qu'à soi-même finalement. Non, il s'agit d'avoir une tristesse selon Dieu et non selon le monde. La tristesse selon le monde, c'est lorsqu'on est triste de voir un échec. On est triste d'avoir été blessé. Triste d'avoir perdu notre superbe. C'est ça la tristesse selon le monde. Mais la tristesse selon Dieu, c'est celle d'avoir un souci pour Dieu et un souci pour notre prochain auquel on a fait du mal. C'est ça la vraie repentance. Donc, les deux premiers points, je regarde mon péché en face et j'assume les dégâts de mon péché. Troisième point, je ne justifie pas mon péché. Je ne justifie pas mon péché. Je vois et reconnais que mon péché est totalement ma faute. Mon péché, c'est ma faute. C'est fini donc les techniques pour se justifier. Ah, tu sais, j'avais des circonstances atténuantes. Ah, tu sais, on m'a entraîné. Fini le fait d'accuser l'autre, de se faire passer pour une victime. Non, c'est mon péché. Lorsque je justifie le mal dans ma vie personnelle, lorsque je justifie le mal, eh bien, je mets fin à toute spiritualité biblique. C'est un peu comme un dentifrice. Lorsque chaque matin, tu prends ton dentifrice, t'appuies, et ce qui sort vient de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est la même chose. Lorsque je pêche, lorsque je suis sous pression, lorsque je suis stressé, on va dire, bah, c'est les événements extérieurs qui me poussent à pêcher. Ben non, les événements extérieurs te poussent à pêcher parce qu'à l'intérieur de toi, le péché est là. Donc j'arrête de justifier mon péché par les événements extérieurs, le stress ou autre. Les pressions extérieures ne font ressortir que ce qu'il y a à l'intérieur de moi-même. Je ne justifie pas mon péché. Quatrième point, je ne compense pas mon péché. Et ça, c'est quelque chose qui est dramatique dans la vie spirituelle. C'est quelque chose que j'ai déjà pratiqué. J'ai cru que je pouvais rattraper mon péché. Un peu une sorte de compensation, comme une balance. Je vois et je reconnais que je ne peux rien faire pour compenser, réparer ou expier mon péché. Aucune pénitence, aucun acte de justice ne peut rattraper mon péché. Ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Dans d'autres religions peut-être, mais dans la parole de Dieu, ça n'existe pas. La première réaction au péché, généralement, en fait, c'est la volonté de vouloir réparer par soi-même. Ce n'est pas que c'est une mauvaise chose. Ça vient après, bien sûr. Mais il y a aussi cette idée qu'on peut avoir de souffrir volontairement ou d'accepter une forme de souffrance parce qu'on a péché. On déprime, on est contrit, on s'apitoie sur notre sort, on dit ah, « je mérite parce que j'ai péché ». Et puis d'aller à la croix ensuite. Mais ce n'est pas ça en fait la vraie repentance. Ce n'est pas ça la guérison du Seigneur. La vraie guérison du Seigneur, ce n'est pas la pénitence. La vraie guérison du Seigneur, c'est d'aller à la croix tout de suite lorsque je pêche. Parce que c'est en Jésus-Christ, et seulement en Jésus-Christ, que je peux être racheté. et je ne suis pas capable de moi-même de racheter mes propres fautes, je ne peux que demander pardon au Seigneur ou demander pardon aux autres à qui j'ai fait du mal. Je ne compense pas mon péché. On ne compensera jamais notre péché. Cinquième point, je mets mon péché en lumière. Et oui, il est important de mettre son péché en lumière. Je confesse mon péché humblement, sans dissimulation, à Dieu et à mon prochain. En fait, il s'agit ici, un peu comme une maison, d'enlever le toit, d'enlever les murs, de l'endurcissement personnel, le fait de vouloir se cacher. Je brise tout ça. Le toit, en fait, c'est ce qui me cache de Dieu et les murs, c'est ce qui m'empêche d'être en relation avec les autres. Et par un vrai réveil, je fais tomber les deux. Je mets mon péché en lumière. Voici qui je suis. Un pécheur. Et je te demande pardon, Seigneur. Et je te demande pardon, mon frère, ma sœur. Parce que si je n'enlève pas les murs, si je n'enlève pas le toit, je vis dans les ténèbres. Je ne peux pas avoir de vraies relations avec mes prochains dans l'Église, ni avec le Seigneur. Appliquer la guérison du Seigneur dans sa vie personnelle, c'est mettre en lumière son péché, à son proche prochain et envers le Seigneur, sans dissimulation, à cause de l'orgueil ou de la crainte d'être jugé. Sixième, je regarde vers la croix. Je regarde vers la croix où mon Sauveur est mort pour moi, où son sang a coulé. Et je reçois, en regardant la croix, je reçois son pardon complet et son renouvellement sans rien contribuer ou sans rien mériter en fait. C'est pour ça que je ne peux pas compenser. Parce que je ne mérite rien, je ne contribue à rien, si ce n'est en fait d'être à genoux à la croix de Jésus-Christ. Parce que pour se repentir, il ne suffit pas de voir son péché. Ça y est, il y a des personnes qui sont très honnêtes sur leurs conditions personnelles. Oui, effectivement, j'ai fait ci, effectivement, j'ai fait ça. Mais elles ne se repentent pas vraiment. Se repentir, c'est voir l'amour inimaginable, inconditionnel de Dieu qui pardonne, qui m'offre son pardon et qui, par la croix de Jésus-Christ, me lave. Et c'est totalement suffisant. Et c'est tout. C'est tout. Donc, je regarde à la croix de Jésus-Christ. Et enfin, septième point de guérison du Seigneur dans ma vie personnelle, je loue et je bénis le Sauveur pour son pardon plein de grâce, pour ses souffrances qui ont obtenu ce salut si incroyable. Lorsqu'on est vraiment guéri par le Seigneur, ça doit se voir. On doit être rayonnant de joie parce que je sais que mon salut est auprès du Seigneur, qu'importe ce que les gens pensent. Mon salut est auprès du Seigneur. Donc Jésus est venu pour te guérir. Et voici sept conseils d'application de cette guérison dans ta vie personnelle. Et ça termine toujours par une louange envers Dieu, notre Père, par Jésus-Christ. Pour conclure, avec Magda, la semaine dernière, on est allé à l'enterrement d'un ami que j'ai rencontré et que j'ai connu dans des camps chrétiens. C'est lui, il s'appelle Gabin. Comme tu peux le voir, il est jeune, il avait 21 ans. Donc, Gabin est mort d'un cancer généralisé qu'il a appris cette année. C'est arrivé très vite, il est mort en 6 mois. Il n'était pas du tout issu d'une famille chrétienne. Pas du tout. Mais grâce à ses amis qui l'ont amené dans les camps, il a pu entendre l'évangile. Il s'est converti et il s'est fait baptiser il y a 2 ans. J'étais vraiment triste et ému de le voir partir. C'était un des jeunes dont j'avais la responsabilité et on avait passé des bons temps ensemble. Mais à la fin du culte, de la cérémonie, j'ai été reconnaissant en parlant avec tous les amis des camps. J'étais reconnaissant au Seigneur pour cette vie qu'il a sauvée avant qu'il parte. Reconnaissant pour la guérison spirituelle que Jésus lui a donnée avant qu'il ne parte. Alors oui, Jésus peut nous donner une guérison physique, on a prié pour ça. C'était pas sa volonté. Mais par-dessus tout, il l'a guéri spirituellement et je sais que je le reverrai. Parce que c'est ce qui compte le plus, la guérison spirituelle. Et donc j'aimerais terminer avec cette question pour toi, pour moi. Question qu'on doit se poser quotidiennement. Es-tu guéri ce matin? Es-tu guéri ce matin? Je vous invite à un temps de silence que je terminerai en priant.